VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mardi 5 juillet 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Au Cameroun, remise de peine à la franco-camerounaise Lydienne Yen Eyoum.
Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a entamé hier une visite historique en Afrique.
Au Nigeria, échec d'une tentative d'attentat à la bombe de 3 femmes kamikazes dans le nord-est.
En Arabie Saoudite, 3 explosions hier, dont une dans la ville sainte de Médine, devant la mosquée du prophète.
Ici aux États-Unis, les Américains reprennent le chemin du travail après la fête du 4 juillet.
Et le président Barack Obama va faire campagne à partir d'aujourd'hui avec Hillary Clinton, la candidate démocrate à la présidence. Et ne manquez pas le journal de l'Euro 2016 ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Le président camerounais Paul Biya a donc annoncé lundi qu'il accordait une remise de peine à l'avocate française d'origine camerounaise Lydienne Yen Eyoum Loïse, condamnée à 25 ans de prison pour détournement de fonds publics. Chérubin Dorsil.
Une avocate parisienne de Mme Yen Eyoum a exprimé sa joie à l'AFP en apprenant la nouvelle. Selon Maître Caroline Wasserman, sa cliente pourrait regagner la France suite à sa remise en liberté. Maître Yen Eyoum a été arrêté en janvier 2010 et sa condamnation remonte au 26 septembre 2014. À l'époque, la justice l'avait reconnue coupable du détournement de l'équivalent d'environ 1,5 million d'euros. Le 9 juin 2015, la peine avait été confirmée par la Cour suprême, le dernier niveau de juridiction du Cameroun. Cependant, Maître Yen Eyoum a toujours clamé son innocence. Son cas avait attiré l'attention des dirigeants français. Le président François Hollande y avait fait une brève allusion lors de son voyage à Yaoundé il y a un an. Et sa libération intervient quelques jours après le déplacement dans la capitale camerounaise du secrétaire d'État français au développement André Valigny, officiellement pour la signature d'un contrat de désendettement et de développement.
Au Nigeria, 2 femmes qui s'apprêtaient à commettre des attentats suicides ont été abattues hier par des soldats dans le nord-est du pays, tandis qu'une 3e kamikaze a fait détonner sa ceinture d'explosifs. Les 3 femmes qualifiées de terroristes de Boko Haram par le porte-parole de l'armée ont tenté d'attaquer dans la banlieue de Monguno, dans l'état de Borno, des personnes déplacées, des personnes chassées de leur foyer par de précédentes attaques des rebelles islamistes. 2 civils ont été blessés. Ces tentatives d'attentat interviennent juste à la fin du mois de Ramadan.
Le chef de file de la lutte anti-esclavagiste en Mauritanie, Biram Da Abeid, apporte sa solidarité à ses collègues arrêtés dimanche à Nouakchott. Le leader de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, explique.
Je suis solidaire, totalement solidaire, sans aucun réserve, avec les membres du bureau exécutif de l'IRA qui ont été mis derrière les barreaux, sont actuellement torturés, qui ont disparu, une disparition forcée, car depuis plusieurs jours, depuis leur arrestation, aucun membre de leur famille, aucun avocat n'a pu les voir, aucun témoin n'a pu les voir. C'est ici un épisode de la lutte sans merci que nous mène le pouvoir qui est porté et qui est encadré par les forces obscurantistes, les forces esclavagistes. Cette affaire prouve encore et étaye les positions de l'IRA sur les enjeux autour de la terre, que ce soit la terre cultivable où se pratique un esclavage agricole contre les Haratins et une expropriation foncière systématique contre les Noirs par l'intermédiaire de l'État au profit d'une classe, d'une seule communauté, une classe arabo-berbère.
C'était Biram Da Abeid, de joie à New York, par Eric Manirakiza. Vous pourrez entendre d'autres extraits de cette interview en deuxième partie de cette édition.
Début très embarrassant hier en Ouganda de la tournée en Afrique du Premier ministre Benjamin Netanyahou, la première d'un leader israélien dans la région depuis 30 ans. Dans son discours, le président Yoweri Museveni a confondu à plusieurs reprises Israël et Palestine, parlant du raid de commandos israéliens sur Entebbe pour libérer des otages israéliens. Museveni a déclaré: les tristes événements d'il y a 40 ans se sont transformés en un autre lien entre l'Afrique et la Palestine parce qu'il y en avait de précédents. La gaffe a fait le tour des médias sociaux en Ouganda et en Israël, où la radio d'État a simplement coupé court à sa couverture sans attendre la fin du discours de Yoweri Museveni.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Arabie Saoudite, un kamikaze a fait détonner ses explosifs dans la ville sainte de Médine, devant la mosquée du prophète. Quelques heures plus tard, le ministère saoudien de l'Intérieur a annoncé que 4 officiers de sécurité ont été tués et 5 autres blessés quand ils ont tenté de barrer la route aux terroristes. Médine est la 2e ville sainte de l'islam après la Mecque. C'est là qu'est enterré le prophète Mohammed. Des millions de pèlerins se rendent à Médine à l'occasion du Hajj annuel. 2 autres explosions ont été signalées hier en Arabie Saoudite, alors que le mois de Ramadan touche à sa fin.
Les Irakiens fulminaient hier contre leur gouvernement face à son incapacité à empêcher un attentat suicide du groupe djihadiste État islamique qui a fait 213 morts à Bagdad, le pire qu'ait connu leur pays depuis des années. Pour leur part, les autorités ont annoncé l'exécution de 5 condamnés à mort et l'arrestation de 40 djihadistes. Le bilan de l'attentat pourrait encore s'aggraver, les secouristes continuant de rechercher des corps au milieu des décombres, des échoppes et des bâtiments détruits par l'explosion dimanche d'un véhicule piégé dans une rue bondée du quartier commerçant de Karada, étaient visés les chiites.
Amnesty International a accusé aujourd'hui des groupes rebelles islamistes en Syrie d'exécutions sommaires et de tortures, appelant la communauté internationale à retirer tout soutien au mouvement responsable de crimes de guerre. L'Organisation de défense des droits de l'homme basée à Londres pointe du doigt des groupes armés syriens dans les provinces d'Alep dans le nord et d'Idleb dans le nord-ouest et dont certains auraient le soutien du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie et des États-Unis.
Ici aux États-Unis, le président Barack Obama fait campagne aujourd'hui pour la première fois aux côtés de Hillary Clinton dans l'espoir de donner un avantage décisif à la candidate démocrate face à son rival républicain Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. Les deux anciens concurrents démocrates de 2008 se présenteront ensemble lors d'un meeting à Charlotte en Caroline du Nord.
Ce sera la première étape d'une série d'événements qui doivent galvaniser les électeurs en faveur de l'ancienne première dame et ancienne secrétaire d'État, notamment les minorités qui restent fortement attachées à Barack Obama, le tout dans des États pivots où se dessinera l'issue de l'élection du 8 novembre prochain. Mais Donald Trump entend rendre coup pour coup et doit s'exprimer mardi soir dans un meeting à Raleigh, dans le même État de Caroline du Nord.
Des millions d'Américains ont célébré hier le 240e anniversaire de l'indépendance des États-Unis avec des feux d'artifice traditionnels, des défilés, des concerts et des barbecues, malgré une sécurité renforcée suite à des attaques terroristes récentes au Bangladesh et en Turquie. Michel Joseph fait le point.
Les autorités policières affirment ne pas avoir reçu de menaces spécifiques contre les États-Unis. Mais des policiers lourdement armés, dont beaucoup accompagnés de chiens, patrouillaient les aéroports et les gares routières et ferroviaires. La sécurité a été renforcée, notamment à Washington, New York et Chicago, où des centaines de milliers de personnes se rassemblent chaque année pour regarder les feux d'artifice, écouter de la musique et prendre part à des pique-niques. Plus de 1200 agents de police récemment assermentés à New York étaient à pied d'œuvre, ainsi que la Critical Response Command, une nouvelle force lourdement armée dont le rôle est de lutter contre le terrorisme. Environ 5000 policiers ont été déployés dans les rues de Chicago en ce week-end de vacances prolongées, traditionnellement l'un des plus violents de l'année.
La fête de l'Aïd al-Fitr, marquant la fin du Ramadan, le mois de jeûne musulman, sera célébrée mercredi en Arabie Saoudite et dans les autres pays de la péninsule arabique. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités religieuses dans ces pays. Le croissant de lune annonçant le début du nouveau mois du calendrier lunaire n'ayant pas pu être observé lundi soir, mardi sera le 30e et dernier jour du Ramadan, ont précisé les autorités. Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
On passe au sport à présent avec le journal de l'Euro et Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
J-1 avant la première demi-finale du Portugal Pays de Galles.
Oui, le coup d'envoi 19h temps universel, mercredi à Lyon. Un duel entre deux sélections, mais aussi entre deux hommes, coéquipiers au Real Madrid, à savoir Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. Le meilleur joueur gallois refuse de réduire cette demi-finale à ce mano à mano. Après avoir fait déchanter la Belgique, les Gallois et leur collectif généreux peuvent-ils rééditer la surprise? C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
Bonjour. La plus grande compétition des nations d'Europe s'achemine irrésistiblement vers son épilogue, avec au menu, pour les demi-finales, un carré d'as totalement inattendu. Si le champion du monde allemand et le pays organisateur, la France, ex-champion du monde et d'Europe, sont indiscutablement à leur place dans le casting final, en compagnie d'un Portugal éternel outsider, le caneton noir de la prouvée est incontestablement le pays de Galles. C'est sans grâce qui s'invite sans façon à la table des grands et confirme qu'un petit pousset peut en cacher un autre. La sensation islandaise masquait l'irrésistible ascension des Gallois, abonnés absents dans les grandes compétitions depuis le quart de finale de Coupe du Monde perdu contre le Brésil de Pelé en 1958. Pourtant, les Gallois ont envoyé des signaux forts. Une belle organisation défensive, un jeu de contre redoutable, des déboulées vertigineuses exploitées avec lucidité par des attaquants libérés de tout complexe. Le tout avec à la baguette un leader généreux, Gareth Bale, qui a su mettre à la disposition de l'équipe sa science des coups de pied arrêtés. Les résultats n'ont pas tardé et voilà le pays de Galles à un match de la finale de l'Euro 2016. Comme la Grèce en 2004, le Portugal qui se trouve sur son chemin a la possibilité de valider ou d'invalider cette éclatante fin de parcours. Qui dira encore que l'histoire ne se répète pas? À demain.
L'autre demi, c'est jeudi, une finale avant l'heure entre la France et l'Allemagne.
Le sélectionneur allemand Joachim Löw a affirmé hier en conférence de presse qu'il redoutait le mental et la force des Bleus qui vont être portés par leur public à Marseille. Lors de ce match, on suivra notamment l'un des hommes forts de l'équipe de France, buteur à deux reprises face à l'Islande. C'est Olivier Giroud, deuxième au classement des buteurs avec trois réalisations. Le joueur d'Arsenal fait taire les nombreux détracteurs qui fustigeaient sa présence dans le groupe français. Retour sur les récentes performances d'Olivier Giroud avec notre correspondant à Paris, Christian Mpanzu.
À l'annonce de son nom dans la liste des 23 de Didier Deschamps, Olivier Giroud a tout de suite dû accepter le rôle du mal-aimé de la sélection. Critiqué, voire même moqué pour sa maladresse devant le but, Giroud a l'étiquette du joueur chanceux. Chanceux car l'habituel titulaire Karim Benzema n'a pas été sélectionné suite à ses ennuis judiciaires, mais aussi car la concurrence au poste de numéro 9 est très faible en équipe de France. Le public français avait plébiscité Hatem Ben Arfa, plus technique et plus spectaculaire. Mais Deschamps a tenu tête à tous ses détracteurs en mettant en avant les statistiques de Giroud sous le maillot d'Arsenal. 27 buts cette saison. Certes, moins talentueux que d'autres joueurs au même poste, Giroud s'appuie sur sa taille et sa puissance pour gêner les défenseurs. Grâce à ces deux atouts, l'ancien joueur de Montpellier est deuxième au classement des buteurs de 7 euros avec 3 réalisations et pourrait encore être décisif face à l'Allemagne ce jeudi. Depuis Paris, Christian Mpanzu pour VOA Afrique.
Le reste de l'actualité sportive, en bref, et on commence par le Tour de France cycliste.
Marc Cavendish a remporté au sprint la troisième étape entre Granville et Angers. Au terme des 223 km, le Britannique de l'équipe sud-africaine Dimension Data s'impose pour la deuxième fois durant cette édition et pour la 28e fois lors d'une étape de la Grande Boucle. Peter Sagan, le Slovaque, conserve le maillot jaune de leader au classement général.
Le tennis à Wimbledon, on parle des sœurs Williams.
Serena Williams et sa sœur aînée Vénus ont une chance de se retrouver toutes deux dans le dernier carré de Wimbledon pour la première fois depuis 7 ans. Si elle s'impose ce mardi lors des quarts de finale, Serena Williams affronte la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, une adversaire à sa portée. Quant à Vénus, elle sera opposée au petit poussé de ses quarts de finale, la Kazakh Yaroslava Shvedova, 96e joueuse mondiale.
C'était le journal de l'Euro, présenté par Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Centrafrique, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme craint une nouvelle escalade de la violence. Il a jugé hier urgent de désarmer les groupes armés pour rétablir l'autorité de l'État. Les tensions sont en hausse à Bangui et plusieurs incidents ont eu lieu aussi dans diverses régions. 23 personnes sont mortes depuis juin dernier. Eric Manirakiza a joint à Genève Cécile Pouilly du bureau du haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme.
On remarque en fait plus de tensions à la fois à Bangui et dans diverses régions avec une implication des groupes armés qui continuent à contrôler beaucoup d'endroits et à commettre des violations graves des droits de l'homme. À Bangui, il y a eu des heurts entre des éléments armés et des soldats de la MINUSCA qui ont fait au moins 6 morts parmi des hommes armés et 15 blessés parmi des civils le 20 juin dernier. Il y a aussi eu un soldat de maintien de la paix sénégalais qui a été tué par des hommes armés non identifiés. Et il y a eu beaucoup d'affrontements dans les régions impliquant des groupes armés et aussi, dans certains cas, des éleveurs peuls. Donc au total, 17 morts dans les régions depuis le début du mois. Et donc un sentiment que la situation pourrait à nouveau se dégrader rapidement. Il y a également un regain de tension à Bambari et à Kagabandoro entre des groupes ex-Séléka qui auraient causé des mouvements de panique au sein de la population civile et des déplacements de grande envergure.
Aujourd'hui, la Centrafrique connaît une stabilité politique du point de vue institutionnel. Pourquoi cette stabilité ne permet pas la stabilité sécuritaire?
Il y a des éléments en effet qui sont prometteurs. Par exemple, le fait que les autorités aient pu adopter une nouvelle constitution, l'établissement de la Cour pénale spéciale. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire, notamment pour que la population puisse reprendre confiance dans les institutions étatiques et pour rétablir l'autorité étatique et l'état de droit. Il faut aussi qu'il y ait la sécurité pour tous les civils. Sinon, il n'y aura pas de paix et de réconciliation durable dans le pays. Nous avons aujourd'hui appelé aussi le gouvernement à faire davantage pour mettre fin au grand nombre d'arrestations et de détentions arbitraires par les forces de sécurité. C'est très important. Donc, il faut beaucoup de ressources et beaucoup de volonté politique pour vraiment s'assurer que justice soit faite pour les crimes présents et passés. Et pour que la population se sente sécurisée, certaine qu'elle n'a pas besoin de se faire justice elle-même ou de recourir aux groupes armés.
L'ONU demande un désarmement urgent. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour ramener la paix en Centrafrique?
En tout cas, c'est un élément fondamental et incontournable pour permettre d'avancer vers la paix. Car ces groupes armés restent vraiment trop puissants et ils ont vraiment le potentiel de rallumer le conflit. Par ailleurs, ils commettent beaucoup des actions sur la population civile qu'ils considèrent comme des proies, véritablement. Et donc, il faut mettre un terme aux agissements de ces groupes armés.
C'était de Genève, Cécile Pouy.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bangui, sur 101.7 FM.
Nouvelles arrestations dimanche de militants anti-esclavagistes en Mauritanie. Ces interpellations portent à 8 le nombre de militants anti-esclavagistes arrêtés depuis le 29 juin, quand il y a eu des heurts dans un bidonville de Nouakchott. Des autorités locales ont soutenu que les affrontements avaient été provoqués par des dirigeants de l'IRA. Nous retrouvons dans cette interview avec Eric Manirakiza, le leader de cette ONG, M. Biram Da Abeid.
Tous au courant de Mauritaniens et de Mauritaniennes en majorité ici, de larges couches de la population mauritanienne, ont vécu de père en fils depuis des générations dans l'oppression à caractère ethnique, racial, qui ont vécu sous l'esclavage par la naissance, d'autres formes d'exclusion et des brimades qui trouvent leurs racines dans l'esclavage. Je sais que c'est ici un épisode de la lutte sans merci que nous mène le pouvoir.
Est-ce que vous sauriez où sont détenus vos collègues?
À l'heure que je vous parle, on a appris que nos collègues de l'IRA ont été divisés en deux catégories selon l'ethnie. Que ceux qui sont de l'ethnie Harappine sont sont gardés dans les locaux de la direction de la sécurité internationale. Ceux qui sont détenus des autres ethnies noires, ils sont gardés à l'école de police qui est le centre de torture par excellence ici en Mauritanie. Il y a cette mauvaise réputation. Et je vais vous parler aussi des dizaines de personnes humbles qui sont les habitants du Todis qui a été déguerpi par la violence, par la force, par la police. Et ils ont des dizaines de détenus parce que c'est eux qui se sont affrontés avec les forces de police. Et ces dizaines de détenus sont éparpillés sur plusieurs commissariats de police. Mais personne ne parle d'eux. L'État n'a pas parlé d'eux. Je dénonce aussi ici le silence des partis politiques, des organisations de la société civile qui ont adopté une position de silence complice avec le pouvoir. Qui n'ont pas daigné dénoncer l'attitude du pouvoir, l'attitude de la police, la violence de la police, la violence du pouvoir contre ces humbles habitants de Edebey Abou Amatou qui a été déguerpi au profit d'une seule personne. Notez aussi que tous ces Edebey qui contenaient 450 familles, toutes ces 450 familles sont de l'ethnie Khratine, pauvres et paupérisés, victimes d'esclavage, victimes de toutes sortes d'exclusions. Et aucun parti politique n'a daigné se solidariser avec ces victimes, sauf le parti de la JDMR et le parti du FPC.
Vous êtes actuellement aux États-Unis. Est-ce que vous allez pouvoir rentrer?
Bien sûr. Je rentrerai comme prévu en Mauritanie, moi et mes collègues. Nous sommes solidaires de nos amis et notre lutte, c'est à travers l'intérieur de la Mauritanie. Que nous soyons en prison en Mauritanie ou en dehors de la prison, c'est de là-bas qu'on va mener notre combat. Jusqu'à la victoire finale.
Le chef de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, Biram Da Abeid, joint à New York. Au Cameroun, le nouveau code pénal a de nouveau été adopté après son renvoi par le président Paul Biya. À l'origine de ce renvoi, l'article 127 qui donnait au ministre une immunité. Qu'est-ce qui a changé dans le projet final? Eh bien, John Lyndon s'est entretenu avec Célestin Bedzigui, premier vice-président de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, un parti d'opposition au Cameroun.
On peut dire que rien n'a été enlevé et nous restons dans le même flou qui a prévalu et qui a suscité tout ce que vous avez entendu comme bruit ces jours derniers. Parce qu'en réalité, le nouveau code pénal, de manière explicite, étendait aux membres du gouvernement l'immunité constitutionnelle du président de la République au prétexte qu'il serait nommé, étant nommé par celui-ci, qui bénéficie d'une immunité constitutionnelle, il devrait partager cette immunité-là. La société civile et les partis politiques se sont élevés contre cette extension. Et après que le texte ait été adopté par l'Assemblée, il est monté au Sénat qui l'a adopté. Et c'est sur son chemin de retour à l'Assemblée qu'il est apparu que, manifestement, le président de la République avait demandé que cette formulation-là soit changée. Et aujourd'hui, on ne cite plus les ministres comme bénéficiant explicitement de l'immunité, mais le nouveau texte parle de quiconque bénéficie de l'immunité, ce qui veut dire qu'en réalité, rien n'a changé parce que ce quiconque-là peut être inclusif. On peut demain avoir un autre texte ou une autre loi, cette fois-là, qui précisera que les ministres désormais entrent dans le champ où sont comptés parmi les personnes qui, avec le président de la République et les membres de l'Assemblée, bénéficient de l'immunité.
Que se serait-il passé si le texte avait explicitement mentionné que les ministres devraient bénéficier de l'immunité?
Bon, ça voudrait dire que l'élément dissuasif qui est d'être poursuivi en cas de délit grave, notamment les détournements de fonds, qui, vous le savez, au Cameroun, sont un exercice très, très couru par les membres du gouvernement, cet élément d'initiative-là aurait disparu.
Quelle place occupe la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite dans ce nouveau code pénal?
Alors, on peut dire qu'aucune place n'y est réservée à ces crimes-là, parce que nous nous serions attendus que de manière formelle, il soit fait état des sanctions et des peines encourues par ceux-là qui affichent un enrichissement illicite du fait de leur incapacité à pouvoir justifier la source de leur enrichissement. Alors que le projet de code qui avait été élaboré en 2011 explicitement faisait état des poursuites vont être engagées vis-à-vis de quelqu'un pour enrichissement illicite, le nouveau texte, lui, ne fait même pas allusion à cet aspect-là.
Célestin Belzegui, premier vice-président de l'UNDP.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Pour la première fois depuis des décennies, un premier ministre israélien visite l'Afrique subsaharienne. Benjamin Netanyahou a commencé par l'Ouganda, où son jeune frère Jonathan est mort il y a 40 ans dans une opération de sauvetage d'otages israéliens. Monsieur Netanyahou se rendra aussi au Kenya, au Rwanda et en Éthiopie. L'importance de cette tournée, Chérubin Dorcy l'a joint à Paris, l'analyste Athanase Karayenga.
C'est une époque nouvelle qui s'ouvre pour plusieurs raisons. Israël arrive avec ses atouts majeurs qui sont la recherche scientifique, agricole, dans les technologies de l'information, dans l'armement, dans les énergies, notamment solaires. Et aussi, Israël a une sensibilité particulière à l'égard des pays africains qui ont connu notamment le génocide. C'est pour cette raison sans doute que une des raisons majeures qui explique la visite du premier ministre israélien au Rwanda, parce que les deux pays ont souffert de génocide. L'autre raison, me semble-t-il, c'est que la solution de deux États, Palestine et Israël, n'avance plus, elle stagne. Les Occidentaux, les États-Unis et les pays européens n'arrivent pas à franchir le cap pour affirmer et reconnaître l'État de la Palestine. Et de ce point de vue, les Africains qui, eux, sont très, très demandeurs d'une double reconnaissance d'Israël et de la Palestine, les Africains se sont rendus à l'évidence. Ce dossier n'avance pas et donc, pour le moment, ils peuvent exploiter l'opportunité économique qu'apporte Israël.
Et qu'est-ce que, d'après vous, les pays africains peuvent offrir aujourd'hui à l'État israélien?
Les pays africains, notamment ceux qui sont visités par le Premier ministre israélien, constituent des marchés considérables. Hein, le Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie, ce sont des pays, on peut dire, vraiment émergents, petit à petit, qui sont en train de devenir de réelles opportunités économiques. Et Israël, comme beaucoup d'autres pays, sont très intéressés par les opportunités d'investissement, ne serait-ce que dans le domaine de la recherche scientifique, de l'armement, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la recherche dans le domaine agricole. Israël a des atouts considérables que le pays peut offrir en partenariat des pays africains.
Vous ne pensez pas qu'un rapprochement accru entre Israël et l'Afrique aura un impact immédiat sur les relations arabo-africaines, si l'on peut parler ainsi?
Mais ces relations n'existent pratiquement plus. Je crois que c'est malheureusement le constat qu'il faut regarder en face. Cette relation privilégiée qui avait été créée entre les Arabes et les Africains, elle n'existe plus. Le dernier qui a porté cette ambition, c'était le président Kadhafi, il a été écarté. Cette ambition n'existe plus.
L'analyste Athanase Karayenga. La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Explosion dans le sud du Nigeria de deux oléoducs appartenant à la compagnie pétrolière nationale NNPC menant la raffinerie de Wari et à sa filiale NPDC. Depuis, de gros pétroliers américains Chevron ont été aussi ciblés. Ce crime a été commis respectivement vendredi, samedi et dimanche. Les vengeurs du delta du Niger, NDA, ont revendiqué les 5 nouvelles attaques contre des infrastructures pétrolières et gazières dans l'état du delta d'où provient une grande partie de l'or noir du premier producteur d'Afrique. Ces rebelles nigériens réclament une meilleure redistribution des revenus pétroliers et une plus grande autonomie politique. En revanche, le pétrole continue de progresser en Asie. Les cours du pétrole étaient en hausse lundi, poursuivant sur leur lancée à la faveur d'informations sur ces opérations de sabotage au Nigeria contre des installations pétrolières. La recrudescence des attaques a fait déjà chuter la production d'eau brute à 1,6 million de barils par jour, bien en deçà des 2,2 millions prévus dans le budget 2016 du Nigeria. Enfin, Londres veut fortement baisser l'impôt sur les sociétés sous la barre des 15% en vue de mettre en place une économie super compétitive. Parallèlement, la patronne du FMI, Christine Lagarde, a estimé que les Européens se devaient de sortir du Brexit par le haut, en s'attaquant à des dossiers qu'ils pensaient condamner à un veto britannique et surtout améliorer leur communication.